BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. C'était en début de semaine la journée internationale des droits des femmes. On en pense qu'on veut, mais il y a des boîtes qui font des efforts et c'est le cas de Noroto. On a reçu le DRH pour parler du recrutement des femmes en interne. Et puis pas de parentalité heureuse sans avoir une garde d'enfants où on est tranquille, avoir l'esprit libre. On va en parler avec les petits chaperons rouges. C'est un réseau de crèches privées. Et puis est-ce que vous avez pensé à prendre soin de vos oreilles? On va parler capital auditif avec Denis Le Square. Il est de la fondation de l'audition. Happy Boulot le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif cette semaine, c'est Stéphane Villemotte. Bonjour, leader ressources humaines chez Noroto. Noroto, c'est le leader européen de l'entretien et de l'équipement automobile. 650 centres dans le monde, 6500 collaborateurs en France, près de 11 000 dans le monde. C'est une grosse PME en fait, Noroto. En début de semaine, c'était la journée internationale du droit des femmes, un événement qui va désormais de pair avec la publication d'un index d'égalité hommes-femmes. Moi, j'ai l'impression que tout le monde a gagné. Tout le monde est un bon élève. Tout le monde a fait des efforts sur les questions salariales. Vous, vous avez publié le vôtre. Vous êtes au-dessus de la moyenne, 89 sur 100. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors déjà, on a progressé. Parce qu'en fait, on n'était pas à ce résultat il y a quelques années. Et en fait, on a énormément travaillé sur les écarts de rémunération, sur les promotions. Ne pas réserver les promotions aux seuls hommes, mais bien avoir un regard sur un bon équilibre dans les promotions. Regardez aussi toute la partie liée au retour des congés maternité pour nos collaboratrices. Et voilà, donc sur ces différents sujets, nous avons travaillé et aujourd'hui, on a amélioré nos différents résultats. Après, j'ai envie de vous dire, au-delà du score, parce que j'entends aussi, ça peut paraître comme étant un score de bisounours. Ce qui est vraiment important, c'est de garder les actions de fond qui sont menées. Nous, on est dans un secteur d'activité qui est un secteur d'activité où vous avez énormément d'hommes dans les formations, par exemple en mécanique, 2 à 3% de femmes dans ces formations-là. Et aujourd'hui, on est à 18% de collaboratrices chez Noroto en France et en Europe. Et donc pour nous, c'est important aussi de regarder le chemin parcouru et de se fixer des objectifs pour la suite.
18% de femmes dans vos équipes, vous les suivez comme le lait sur le feu, vous avez une attention particulière, vous regardez justement précisément en retour de congé maternité, qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est presque des salariés privilégiés?
Alors je parlerai pas de salariés privilégiés, en tout cas il y a une attention forte. Et je pense qu'on doit avoir justement cette attention, à la fois parce que on se rend compte que être une collaboratrice, c'est être une femme. Parfois, il y a un certain nombre de sujets en lien avec la vie personnelle, et qu'en aucun cas, la vie personnelle ne doit être faite, ne doit être un frein à l'évolution professionnelle. Et donc, on regarde, oui, comment ça se passe au retour de congé maternité. Oui, on regarde comment ça se passe dans le magasin, dans le centre. Donc, oui, on a une attention particulière pour nos collaboratrices. Actuellement, on est à 18% et on espère petit à petit augmenter la proportion.
Alors comment vous pensez attirer par mimétisme, en valorisant certains profils?
Alors on travaille deux aspects. Un, le recrutement externe avec une attention particulière par rapport aux candidates. Et ensuite, on travaille beaucoup la promotion interne. Parce qu'en fait, quand on a des postes de direction, on est plutôt dans une entreprise qui fait plutôt confiance à la promotion interne. On a 100% de nos directeurs de magasin qui viennent de la promotion interne. Donc il est vraiment important pour nous d'accompagner les collaboratrices dans un métier de direction au niveau d'un centre, au niveau d'une région, voire demain au niveau d'une entreprise.
Ce qui veut dire que si je suis une femme et que j'aime les métiers de la mécanique, ma possibilité d'évoluer est bien plus forte si je vais chez vous qu'ailleurs. C'est-à-dire que vous allez pousser plus les femmes à avancer. Vous allez aller plus vite si je suis une femme.
En fait, nous souhaitons avoir davantage de femmes parmi les postes à responsabilité dans l'entreprise. Et après, j'ai envie de vous dire, on est dans des métiers où il y avait des stéréotypes. Voilà, la mécanique, c'était les hommes. On a aussi des collaboratrices qui adorent la mécanique. Donc à nous de les former, à nous de les aider.
Mais est-ce que vous faites de la discrimination positive, du coup?
Non, on fait pas de discrimination positive.
Vous mettez pas des quotas fixes?
On met pas des quotas, etc. Nous, l'idée, c'est vraiment de dire, à un moment donné, on doit être à l'image de nos clients. Et on a de plus en plus de femmes dans nos centres. On se rend compte que les clientes aiment bien être reçues également par des collaboratrices. Donc voilà, on fait attention aussi à la société qui évolue. Et donc on ne veut plus...
C'est important pour votre image de marque. Vous mélangez marque employeur et à la fois marque vis-à-vis des clients. Vous dites les clients ont besoin d'avoir une entreprise diverse.
Bah en fait, quand vous avez une entreprise qui travaille dans un métier comme la mécanique, on a des clients très différents. Et donc je pense qu'une cliente ira plus naturellement vers une collaboratrice.
Pour la promotion interne, on a bien compris. Pour l'attractivité extérieure, vous ne pouvez pas non plus créer des profils. Comment on fait pour que les femmes aillent vers des métiers plus
masculins d'historique ? Alors, il y a un gros travail
plus masculin d'historique.
Alors, vous avez raison, il y a un gros travail qui est fait par la branche des métiers de l'automobile pour féminiser l'ensemble des formations. C'est ce qu'on a connu dans le bâtiment il y a 10-15 ans. Et donc voilà, donc il y a un travail qui est fait justement pour féminiser les formations et demain que les jeunes diplômés EES arrivent dans nos entreprises.
Ça marche ?
Ça marche.
Bah, il se passe quelque chose parce que on voit par exemple que dans l'informatique, ça régresse. Il y a de moins en moins il y a moins aujourd'hui de femmes qui choisissent l'informatique qu'avant.
En tout cas, dans notre branche, ouais. Ça fonctionne. Et vous avez on commence à avoir des belles réussites. C'est-à-dire qu'on commence à avoir, par le biais de la promotion interne, des collaboratrices qui ont commencé comme dans la mécanique, chef d'atelier, directrice de centre, et demain, certaines sont repérées pour être directrice de région. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, moi je le vois dans des équipes de direction où il y a une présence de femmes plus importante, parfois c'était inexistant, maintenant il y en a, on voit aussi des collectifs qui avancent mieux, qui sont plus dans la bienveillance, qui se disent des choses. Et donc je pense qu'il y a aussi, dans le fait d'avoir des équilibres entre les hommes et les femmes, des atouts pour les entreprises.
Mais est-ce que c'est dur d'être une femme dans des métiers de la mécanique ? Est-ce qu'il y a des sujets de sexisme ? Il y en a ailleurs, hein. C'est pas que spécialement dans l'automobile, mais est-ce que vous avez dû travailler aussi là-dessus ?
Non, alors moi si vous voulez, j'écoute aussi mes partenaires sociaux. Je pense que aujourd'hui, on est tous conscients que les mentalités vont évoluer. Les cultures sont en train de changer, donc j'entends pas parler de sexisme ou autre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que on peut être une femme, travailler dans la mécanique, évoluer dans une entreprise automobile et prendre des responsabilités et diriger des hommes.
Et ça marche.
Et ça marche.
Mais vous faites attention quand même à ce qui se passe. Enfin, vous faites attention à la manière dont se comportent vos collaborateurs, à la manière dont ça se passe dans les boutiques, les ateliers.
Ah bah, si vous voulez, on a toujours des garde-fous sur un certain nombre de sujets. Vous parlez du sexisme, on peut parler d'autres choses aussi. Et on a heureusement un certain nombre de garde-fous. On est une entreprise importante, on fait attention à ça. Et donc à chaque fois qu'il peut y avoir éventuellement une difficulté, elle remonte et on la traite. Ça c'est important aussi.
Vous êtes une entreprise qui fonctionne bien. C'est quoi le but en termes de recrutement, pas que les femmes, de manière générale, hommes et femmes pour cette année ?
On est sur la France, on est 8000 collaborateurs. On a prévu de faire 1000 recrutements qui sont à la fois des recrutements liés à des départs en retraite ou aussi à l'activité qui pourrait augmenter même si on a vécu un peu la crise comme tout le monde, mais on est resté ouvert pendant la crise sanitaire et donc 1000 recrutements avec une particularité, nous recrutons cette année 500 alternants dans le cadre du dispositif un jeune, une solution. On en a déjà recruté 390, il en reste 110 à recruter parce qu'en fait on aimerait que chacun de nos centres en France, on aimerait qu'il y ait un jeune dans chacun des centres qui sont présents en France.
Et ils sont dans quel état, vos jeunes, ce futur jeune là, vous dites vraiment il y a un besoin très fort, y a un impact social important que vous décidez d'avoir.
Bon, en fait, on décide d'avoir un impact évidemment social. Parce que je pense que en tant qu'entreprise aussi importante, on a une responsabilité vis-à-vis de la société. Et deuxième chose, on se rend compte que quand on prend un jeune en alternance, qu'on le forme à nos métiers, même s'il arrive avec rien au départ, on le forme à nos métiers. On lui donne un investissement en termes de formation, en termes de temps. Il a un parrain. Et au bout du bout, à 90%, ça débouche sur un CDI. Voilà, et c'est à la fois la responsabilité de l'entreprise, mais c'est aussi important pour la pérennité de nos métiers. Aujourd'hui, il y a encore trop peu de formation en mécanique, et donc on doit aussi parfois prendre la responsabilité de former nous-mêmes pour justement attirer.
Vous êtes comme beaucoup d'entreprises, vous créez vos propres leaders, vos propres talents, quoi. C'est de l'école jusqu'au bout. Vous êtes leader ressources humaines, ça veut dire en gros DRH, hein, c'est à peu près ça. Vous allez avoir le droit au même petit questionnaire que les autres. Vous me dites si on continue ou si on arrête les CV classiques. On continue ou on arrête ?
On arrête.
Ça marche plus ?
C'est pas que ça marche plus. Je pense qu'on a évolué. Moi, je vois passer des CV par vidéo. Je vois passer des messages sur LinkedIn en direct avec moi, par exemple, sur LinkedIn.
Vous répondez? Candidat,
et je réponds tout le temps. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il y a ce qui se faisait avant, il y a ce qui se fait maintenant.
Les tests de personnalité, vous en faites ou pas?
Non.
C'est pas votre truc?
Non, parce qu'en fait, on est plutôt dans des mises en situation, on est plutôt dans des vies ma vie. Un candidat qui vient chez nous peut avoir un process de vie ma vie, c'est-à-dire que on lui propose dans le process de recrutement d'aller vivre une demi-journée dans l'entreprise. Et ça, par contre, c'est le meilleur CV du monde et c'est la meilleure expérience du monde. À la fin, le candidat peut dire « cette entreprise ne me correspond pas, c'est rare, et j'arrête ». Ou au contraire, on a toute l'équipe de l'atelier qui dit « cette candidate, ce candidat, il est canon ». Et on a envie de le garder. Et on n'a pas regardé son CV à la base. On a
donc venez nous tester, quoi.
Exactement.
En live.
Ouais. Et ça, je pense que c'est les nouvelles méthodes de recrutement.
Les entretiens de fin d'année, classiques, tous les ans.
Bah, dans ce que vous dites, c'est le terme classique moi, qui me gêne. On est plutôt sur des entretiens qui ont lieu tous les trimestres. Et un point d'arrêt annuel pour regarder sur le long terme. Pourquoi au trimestre? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui bougent maintenant. Que les collaborateurs veulent faire des points d'étape réguliers dans l'année et un point plus annuel justement là pour mettre en perspective le collaborateur dans son parcours.
Merci beaucoup Stéphane Villemotte d'être venu nous voir, leader ressources humaines chez Noroto. Vous avez une crèche d'entreprise?
On est en train de regarder.
Ah, et ben ça va être notre sujet. Voilà un bon moyen d'attirer des femmes. La crèche d'entreprise, ça va être notre sujet dans un instant.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Et on va parler garde d'enfants avec Sacha Tikhomirov. Bonjour, vous êtes
Bonjour.
Directeur général France des petits chaperons rouges, ce sont des crèches privées. On est à la fin de la semaine, au début de la semaine, il y avait la journée internationale du droit des femmes. Est-ce que l'égalité homme-femme, ça passe aussi par une parentalité sereine?
Absolument. Et un des principaux bénéfices de la place en crèche, entre autres de la place en crèche privée, c'est justement de favoriser l'employabilité des femmes et surtout l'égalité hommes-femmes. Tous nos clients, les entreprises clientes, nous disent c'est un facteur absolument majeur. Donc c'est vraiment un élément extrêmement important. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 446 000 places de crèche. Il y a un déficit de 230 000 places. Les crèches privées sont là pour justement pallier à une partie de ce déficit. Et nous, ce qu'on propose comme service pour les employeurs et pour leurs salariés, c'est leur garantir une place en crèche. Donc si un employeur vient nous voir pour ses collaborateurs, on garantit que ses collaborateurs auront une place en crèche. Et non seulement au démarrage, mais en plus, grève, Covid, fermeture, on garantit une place en crèche 100% du temps. Donc c'est un vrai bénéfice.
Avant, la crèche d'entreprise, elle était dans l'entreprise. Je vous dis ça avant, je sais pas, il y a 15 ans. Il y avait un endroit où on pouvait descendre voir son enfant, mais on allait au travail avec son enfant. En fait, ça n'arrangeait personne. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça.
Ça a complètement changé et c'est encore l'image qu'ont beaucoup d'entreprises. C'est que, je suis trop petite, je vais pas créer une crèche dans mon entreprise. Ça a complètement changé.
À côté de la cantine.
Exactement. Maintenant, la crèche d'entreprise, elle est à côté de son domicile. On propose un réseau. Nous et les autres opérateurs, on propose un réseau de crèches qui est réservé par l'entreprise, mais dans nos propres établissements. On a plus de 420 crèches en France, en propre, 1200 partenaires. On trouvera une place de crèche à côté de chez vous. Vous laissez votre enfant, vous allez sereinement au travail, vous revenez, vous récupérez votre enfant.
Ce qui veut dire que l'entreprise ne crée pas une crèche en son sein et elle peut financer à partir d'un salarié un berceau.
Absolument, mais on a beaucoup, beaucoup d'indépendants, des médecins, des avocats, des boulangers, des commerçants, qui financent place de crèche pour leur enfant ou pour un ou deux salariés dans les PME.
Alors combien ça coûte?
Alors en fait, il faut savoir qu'on bénéficie, on a la chance en France d'avoir des gouvernements qui ont favorisé la parentalité. Il faut savoir que pour une entreprise, elle bénéficie de 50% de crédit d'impôt famille. En plus, les frais sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Donc ça coûte à peu près 23%, le reste à charge c'est 23%, ce qui veut dire pour une place de crèche, en entreprise, c'est de l'ordre de 200 à 300 euros par mois pour l'entreprise. Pour le salarié, c'est le même prix, une place de crèche privée ou une place de crèche municipale associative, c'est exactement le même prix. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 50 centimes et 6,50 euros de l'heure. En moyenne, les familles qui viennent chez nous payent 2 euros de l'heure. Et ça comprend les couches, l'alimentation et tout le cadre pédagogique qui est encadré par des professionnels diplômés.
C'est beaucoup moins cher que les nounous, c'est ça que vous voulez dire?
C'est beaucoup moins cher, absolument.
Quelles sont les entreprises qui résistent? Parce que là, on a l'impression qu'on signe tout de suite. Donnez-nous des berceaux. C'est le prix d'une carte ticket resto, en fait, à peu près. Quelles sont les entreprises qui disent non, pas du tout, je ne veux pas de ça?
En fait, il y a assez peu d'entreprises qui résistent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas au courant. Donc, le principal objectif, et merci de nous inviter aujourd'hui, c'est vraiment de faire connaître le service. On a à peu près 5% des entreprises en France qui utilisent des places de crèche. Il y en a 60 qui sont intéressés par la QVT, la qualité de la vie au travail, et qui développent ce genre de service, mais elles ne connaissent pas le service et elles ont des a priori, à la fois sur le fait, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, il faut que je crée la crèche chez moi, c'est trop grand, je suis trop petite, ou alors, c'est trop cher. Mais ils ne connaissent pas ni les soutiens qui sont offerts par l'État, ni la possibilité de réserver une place en crèche n'importe où en France.
Donc, est-ce qu'on peut, quand on est employé, dire à son employeur, pousser un peu, donner des arguments, avancer, dire, vous pouvez vous rapprocher de tel réseau, pousser son DRH?
Mais bien sûr, la principale source, nous, de contact, ce sont des employés qui vont voir leur DRH, qui disent, je n'ai pas de place en crèche, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? 50% des familles qui viennent chez nous n'auraient pas eu de place en crèche sans l'aide de leur employeur.
Ah oui, donc c'est il faut pas hésiter à être proactif.
Faut pas hésiter.
Par contre, la crèche c'est 3 ans a priori, de 0 à 3 ans avant l'école. Oui. Est-ce que du coup vous êtes complètement lié à votre employeur? Est-ce que vous vous dites il a la place en crèche, je reste 3 ans, c'est sûr? Ce qui peut être un argument dans l'autre sens pour garder les employés, mais
alors c'est un des points positifs pour l'employeur, c'est qu'évidemment il propose ce service, ça crée de la fidélité, ça crée surtout de la sérénité. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes quand elles vont travailler. Quand elles ont une nounou ou d'autres systèmes, elles peuvent être pressées le matin, pressées le soir. Avec une place en crèche garantie, il y a beaucoup plus de sérénité. L'autre avantage, quand on a un réseau national, c'est que ça permet aussi la mobilité professionnelle en France. Vous pouvez avoir une place en crèche à Paris, demain vous êtes muté à Bordeaux, vous allez chez BFM Bordeaux, paf, on va vous trouver une place en crèche à Bordeaux. Donc la localisation de la place en crèche ne sera pas un frein à la mobilité professionnelle ni à l'évolution de carrière.
Mais ça peut faire qu'on se sent quand même attaché à son employeur en disant « je reste 3 ans ». Mais ça fait un argument.
Ça fait partie de tous les avantages sociaux que proposent les employeurs, ça parmi d'autres.
C'est quoi les horaires d'ouverture des petits chaperons rouges?
Alors ça dépend vraiment des structures. On a par exemple des structures hospitalières, vous pouvez imaginer, qui vont commencer très tôt, très tard, qui vont être ouvertes 15 à 16 heures par jour. Typiquement, on ouvre entre 7h30 et 8h le matin et on ferme aux alentours de 19h. Mais ça dépend vraiment des localisations des différents établissements.
À 19h, c'est quand même une demi-heure, plus d'une demi-heure après la crèche classique. Donc c'est vous adaptez quand même aux horaires des salariés.
On s'adapte en fonction justement des localisations. On sait qu'en région parisienne, il y a un peu plus de temps de transport. Donc en général, les horaires sont un peu plus élargis. Il y a des villes de province dans lesquelles il y a moins de transport. Les horaires sont un peu plus resserrés.
Que vous disent les salariés après? Je suis enfin tranquille pour travailler correctement.
On fait des enquêtes deux fois par an sur les familles qui sont chez nous. 96% disent qu'elles sont satisfaites ou très satisfaites du service, que ça leur donne de la sérénité. En plus, ils ont la satisfaction et le calme d'avoir leur enfant dont on s'occupe toute la journée, non seulement sur la partie hygiène, alimentation, mais aussi développement pédagogique avec tous nos professionnels diplômés qui sont à leur service. Donc c'est vraiment, vraiment un facteur de bien-être très, très fort, en particulier pour les femmes, parce que c'est elles qui souvent suivent l'éducation des enfants les plus petits.
Mais il y a des demandes d'hommes pour la crèche. Beaucoup demandent aussi pour leurs enfants.
Bien sûr. On s'aperçoit que ce qu'on appelle les transmissions, donc quand on pose le matin et pose le soir, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'hommes, qui posent le matin ou qui viennent prendre le soir. La répartition, on voit clairement qu'il y a une évolution.
Et on peut demander à l'employeur de la femme comme de l'homme.
Absolument.
Le financement d'une place de crèche. Il y a des grèves de crèche chez vous ou pas?
Ça arrive de temps en temps. On est sous le régime des salariés, donc ça peut arriver, c'est leur droit. C'est pas très courant, mais c'est leur droit. On s'arrange.
Pas très courant, c'est déjà un argument pour les gardes d'enfants.
On s'arrange de toute façon pour trouver une solution pour les enfants.
Merci. Ça, c'est très important. Il y a toujours une solution de garde. Merci beaucoup, Sacha Tikhomirov, d'avoir été avec nous, directeur général France des Petits Chaperons Rouges. Nous, on va parler de vos oreilles.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va parler de nos oreilles avec Denis Lesquer. Bonjour, directeur général de la Fondation de l'Audition. C'était la journée mondiale de l'audition le 3 mars dernier. Quel rapport avec l'entreprise? Est-ce qu'il faut faire attention à ses oreilles partout, y compris au bureau?
Il faut faire attention à ses oreilles partout. En France, un salarié sur cinq est exposé à un risque sonore dangereux pour son audition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va être exposé à plus de 80 décibels pendant plus de 8 heures dans sa journée de travail.
Et c'est quoi, par exemple?
Ah ben, ça va être effectivement... Alors, on connaît tous les milieux de l'industrie. Là, on peut imaginer tout à fait les machines qui sont en boucle dans les différentes usines. On peut imaginer les secteurs de la construction. On imagine aussi l'agriculture. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les entreprises sont concernées aujourd'hui. Vous vous rendez dans votre travail, vous utilisez les transports en commun. Donc, vous êtes dans le métro. Je prends l'exemple des grandes villes ou de Paris. 80 décibels, le métro. Donc, vous êtes déjà en situation de risque. Vous arrivez après dans un open space. S'il n'a pas été bien pensé, vous êtes aussi dans une situation de risque toute la journée. Et puis, vous allez à la cantine et ça continue. Et ça continue comme ça toute la journée.
Mais on se dit juste c'est épuisant. On se dit pas si ça abîme mes oreilles.
Alors, vous avez raison. D'abord, c'est épuisant. C'est une source de fatigue. Donc déjà, en tant que tel, c'est extrêmement dangereux parce que problème de concentration, problème d'efficacité dans ce qu'on a à faire, risque d'accident, stress. Stress, ça veut dire aussi maladie cardiovasculaire, syndrome dépressif, troubles cognitifs. Mais ce qu'on n'imagine pas, c'est que c'est lancinant. Et qu'à un moment donné, effectivement, ce capital auditif est extrêmement fragile et que la surexposition des bruits en milieu professionnel, bien évidemment, et tout au long de la journée, est quelque chose d'extrêmement grave pour la santé. Je reviens juste sur la notion du bruit. Le bruit est une cause de maladie professionnelle. Les surdités professionnelles se classent au quatrième rang des maladies professionnelles. Donc c'est un enjeu extrêmement important dans le milieu professionnel pour l'entreprise de prévenir ces risques. Il faut identifier effectivement quels sont les risques.
On ne peut faire que prévenir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner.
Alors non, malheureusement, j'aurais dû vous le dire, quand on est sur une surdité professionnelle, diagnostiquée en tant que telle, cette surdité est malheureusement irrémédiable. On ne pourra pas effectivement restaurer votre audition. L'audition, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Tout à chacun n'a pas conscience de ce que ça représente. Mais votre audition, quand elle est effectivement entamée, on ne peut pas la reconstruire. On va... Si nécessaire, effectivement, vous allez peut-être être appareillé. Alors, on connaît ça effectivement pour les personnes au-delà d'un certain âge, 60 ans et plus, mais on peut aussi être appareillé jeune.
Mais c'est-à-dire que toute sa vie, il faut faire attention à son capital auditif, comme on fait attention à son capital avec sa peau, avec le soleil.
Il faut prendre conscience que le capital auditif est tout aussi important que le capital solaire et qu'on doit effectivement à tout moment de sa vie faire extrêmement attention. Alors, dans le monde de l'entreprise, ce qui est important, c'est que les employeurs doivent prévenir ces risques, ils doivent évaluer, ils doivent les combattre. C'est déterminant pour que les salariés soient effectivement protégés. Ce qui est important aussi pour l'employeur, c'est de former, d'informer les salariés sur ces risques. La sensibilisation est déterminante pour prévenir et anticiper les risques sur le capital auditif.
Mais est-ce qu'il faut du coup commencer en tant qu'employeur par mesurer le bruit qu'il y a dans son entreprise?
Oui, c'est extrêmement important. Il ne faut pas avoir peur de mettre des sonomètres. Alors, ça existe sur application, mais ceci étant, si on a un doute et on se dit, bon, effectivement, ça peut être fatigant, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut évaluer si oui ou non j'expose mes salariés aujourd'hui à un risque auditif qui demain sera préjudiciable pour l'efficacité. Excusez-moi de vous parler comme ça, mais pour l'efficacité.
Ah, on comprend très bien, vous savez, avec même business, l'efficacité dans le monde du travail, on comprend très bien.
Voilà, donc il y a un intérêt qui est simple. On veut que les salariés soient dans des conditions optimales. On doit extrêmement faire attention à l'environnement dans lequel évoluent les salariés et l'environnement sonore est déterminant pour qu'on soit effectivement dans une
efficacité. Mais après, vous faire quoi? Il faut déménager tout le monde ou il peut y avoir des mesures assez simples à prendre pour faire baisser le niveau sonore?
Alors, il y a les choses
pour baisser le nombre de gens, quoi.
Alors, ça, c'est.
Bon, ça, grâce à la crise sanitaire, c'est réglé.
Oui, non, c'est réglé, oui, mais pas totalement parce que. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en télétravail et vous avez quoi sur les oreilles toute la journée? Un casque. Et bien ça, c'est pareil. De temps en temps, il faut savoir mettre son casque de côté, alterner. Il ne faut pas passer 8 heures toute la journée avec le casque en visio, en conf. Hein. C'est épuisant.
On disait avant, quoi, quand on allait tous au bureau, le casque, c'est la nouvelle porte du bureau. C'est ce qui permettait de s'isoler des autres. Mais en fait, il y a quand même un risque.
Il y a aussi un risque, effectivement, si vous portez votre casque toute la journée.
Donc il faut laisser vos oreilles à l'air libre.
Il faut laisser vos oreilles se reposer. Il faut effectivement identifier les risques s'il y en a, parce qu'il n'y en a quand même pas partout. Mais une fois que vous avez identifié ces risques, il faut trouver des solutions pour que vous soyez de temps en temps isolés. Dans les espaces d'open space, il faut des espaces de repos où les personnes vont pouvoir effectivement s'isoler, ne pas être tout le temps en contact avec d'autres personnes pour la voix. Pour les téléphones qui sonnent, pour les échanges, il faut être capable de se dire, ben là, je vais faire un break, je vais me mettre dans ma petite bulle pour travailler plus sereinement et j'ai besoin de plus de concentration. Donc, il faut intégrer cette dimension. Il y a des matériaux, tout à l'heure, vous me parliez
oui,
de ça.
Qui isolent plus que d'autres.
Exactement. Donc, ça aussi, c'est une dimension qu'il faut complètement appréhender quand on est employeur et qu'on conçoit des espaces.
Merci beaucoup, Denis Le Square, d'avoir été avec nous, directeur général de la Fondation de l'Audition. Faites attention à vos oreilles et n'ayez pas peur de mesurer le bruit qu'il y a autour de vous dans votre bureau, dans votre open space. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.